Dans un mois et demi, le changement climatique sera au cœur de la COP21, la conférence des Nations Unies sur le climat, qui se tiendra à Paris. L'enjeu des discussions est de trouver un accord permettant de réduire les émissions de gaz à effet de serre afin de limiter la hausse des températures à 2 degrés d'ici la fin du siècle. Le changement climatique perturbe notamment le cycle de l'eau, comme le reconnaît le GIEC, le groupe d'experts intergouvernemental sur l'évolution du climat. Sarah Loudin, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes chargée de mission plaidoyer au COP21 à la Fondation France Liberté. Alors la Fondation a souhaité mettre l'accent sur la problématique de l'eau à l'occasion de la COP21. Il y a donc nécessité de mettre l'eau au cœur des discussions de cette conférence.
Oui, les négociations sur le climat d'une façon générale et la COP21 en particulier ne parlent pas de l'eau et se focalisent sur les gaz à effet de serre pour résoudre la crise climatique. Et ce, alors que l'eau est à la fois une ressource fortement impactée par le changement climatique et qui, lorsque son cycle est déréglé, l'affecte en retour. Du coup, la COP21 va braquer les projecteurs sur Paris et va parler d'environnement et climat. Et ce sera l'occasion de mettre en lumière une variable cruciale du changement climatique qui est l'eau.
Alors en quoi le cycle de l'eau et le climat sont-ils liés ?
Alors, le changement climatique impacte le cycle de l'eau, ce que l'on peut voir au travers d'événements souvent médiatisés comme les inondations, les sécheresses, les typhons, etc. Il impacte les ressources en eau, il modifie par exemple les précipitations ou l'écoulement des cours d'eau. Mais les perturbations du cycle de l'eau affectent aussi gravement le climat à l'échelle locale. Par exemple, l'eau des pluies ruisselle et s'infiltre pour se stocker dans les nappes phréatiques, qui elles-mêmes alimentent les cours d'eau. En parallèle de ça, l'eau s'évapore aussi sous l'action du soleil, ce qui conditionne l'humidité de l'air et la formation de nuages et de pluie. Et en fait, c'est toutes ces interactions qui définissent un climat. Donc ça montre que eau et climat sont intimement liés.
Les activités humaines ont modifié durablement l'environnement dans de nombreuses régions. C'est le cas notamment avec la déforestation. C'est l'un des exemples les plus frappants.
Oui, tout à fait. Lorsqu'on perturbe le cycle de l'eau, on perturbe le climat. Dans le cas de déforestation, couper une forêt sur une large région empêche l'eau de s'infiltrer normalement dans le sol grâce aux racines des arbres. Et en plus de ça, l'eau ne transpire plus, ne s'évapore plus pour former des nuages et garder un certain taux d'humidité dans l'air et pour créer des précipitations. Et du coup, ça fait qu'il y a moins d'humidité dans l'air, moins de pluie et les températures augmentent. C'est ce qui se passe actuellement au Mozambique où la forêt primaire est fortement déforestée et où les températures de toute la région sont en train d'augmenter.
Alors l'urbanisation à outrance est aussi un facteur important de modification du cycle de l'eau. On l'a vu dernièrement avec les inondations dans le sud-est de la France.
Oui, avec l'urbanisation et la disparition du couvert végétal dans les villes apparaissent à la fois l'effet d'îlots de chaleur urbain et en même temps une sensibilisation très accrue aux inondations. Au niveau des effets d'îlots de chaleur urbain, donc c'est quand la chaleur du soleil est stockée par le béton et ça crée un effet de dôme thermique au-dessus des villes et la température augmente fortement sur des espaces qui sont très localisés. Par exemple à Tokyo, qui est le plus grand îlot de chaleur urbain au monde, on a trouvé des différences de température qui vont jusqu'à 10 degrés entre le centre de la ville et la campagne. Plus récemment, on peut voir aussi malheureusement chaque année des exemples où, puisque le sol est complètement imperméabilisé dans les villes, lorsqu'il y a des précipitations intenses, l'eau ne peut pas s'infiltrer et du coup ruisselle et ça crée des inondations qui malheureusement parfois sont extrêmement violentes.
Alors pour restaurer le cycle de l'eau et les microclimats, des alternatives existent. Par exemple, en agriculture, quelles sont les solutions qui peuvent être mises en œuvre ?
Alors, de nombreuses formes d'agriculture autres qu'intensives et polluantes existent et permettent de mieux respecter le cycle de l'eau. Par exemple, on peut réintégrer des haies et des bocages au paysage agricole. On peut favoriser les cultures en bandes alternées qui suivent les courbes de niveau et évitent l'érosion. On peut aussi adapter les cultures au climat local pour limiter l'irrigation intensive. Ces principes sont notamment repris dans l'agroécologie, l'agriculture biologique ou encore la permaculture.
Les alternatives existent donc en agriculture, en milieu urbain et même pour les industries.
Alors par exemple dans le cas de l'industrie, pour moins impacter le cycle de l'eau et moins contribuer au changement climatique, l'industrie peut évidemment se tourner vers les énergies renouvelables plutôt que fossiles, mais aussi au niveau d'une usine, réutiliser ses eaux usées pour les processus industriels de façon à moins pomper par exemple dans la nappe. En France, on a le cas de l'exemple de l'usine Pocheco dans le Nord-Pas-de-Calais qui est autosuffisante en eau puisqu'elle récupère les eaux de pluie et qui a installé un système d'isolation thermique sur son usine avec des toits végétalisés et des panneaux solaires qui lui permettent aussi d'être autonome en énergie.
Alors ce sont des solutions de grande échelle, mais ce ne sont pas les seules à devoir être mises en œuvre. Des initiatives locales et individuelles peuvent également porter leurs fruits.
Oui, chacun citoyen peut à son échelle impacter positivement le cycle de l'eau et restaurer le climat. Par exemple, à l'échelle individuelle, on peut avoir un impact positif en s'informant bien sûr et en économisant l'eau, en prenant en compte l'empreinte eau de nos produits de consommation, c'est-à-dire le volume d'eau total qui est utilisé pour produire un bien, donc ça inclut les matières premières utilisées et le transport. On peut aussi consommer moins d'énergie et choisir d'utiliser des énergies renouvelables, le fournisseur le plus connu étant par exemple Enercoop. Et à l'échelle collective, on peut aussi se mobiliser. Les citoyens peuvent se rassembler et rencontrer leurs élus pour faire porter leur voix au niveau politique et peuvent aussi organiser des rencontres pour se former sur la question de l'eau et du climat et agir ensemble. Ce sont des exemples parmi tant d'autres. France Liberté, dans sa campagne et dans son livret de plaidoyer eau et climat, en propose beaucoup d'autres. C'est aussi vraiment important de solliciter ces élus puisque ceux-là ont un rôle crucial pour lutter contre le changement climatique. Par exemple, au niveau local et même national, ils peuvent intégrer les enjeux liés à l'eau et au climat dans leur politique et par exemple favoriser la réutilisation des eaux de pluie, favoriser le retour de la nature en ville, soutenir l'agriculture biologique, soutenir les fonds pour le climat, etc.
Et toutes ces alternatives destinées à restaurer le cycle de l'eau et à influer sur le climat seront mises en avant au moment de la COP21 et sont à découvrir sur le site de France Liberté et sur Fréquence Terre. Merci Sarah Loudin.
Merci à vous.
Monde solidaire à retrouver sur fréquenceterre.com. Philippe Bourri, Fréquence Terre.
Retrouvez et podcastez cette chronique sur notre site fréquenceterre.com.